Et nous allons parler donc d'un roman graphique que j'ai lu tout à l'heure, donc c'est tout frais dans ma tête encore, et on va recevoir donc les deux auteurs, Jean-François Chanson, bonjour.
Bonjour.
Et une voix que vous connaissez déjà, car on le reçoit régulièrement, Lorenzo Chiavini, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Roger ?
Mais je laisse parler Jean-François peut-être.
Oui, donc je suis scénariste. Moi je suis prof de physique et donc j'aime beaucoup la physique. Et donc je connais depuis très longtemps un physicien qui s'appelle Enrico Fermi.
Oui.
Et ce physicien né au début du XXe siècle, dans les années 20-30, a créé une bande de scientifiques qui vont tous avoir des destins assez extraordinaires. Lui par exemple, Fermi, va travailler sur le nucléaire. Il va avoir un Nobel qu'il ne méritait pas, parce qu'il est passé juste à côté de la fission nucléaire. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais. Et il est parti recevoir son Nobel. Sa femme était juive. Il y avait les lois raciales à l'époque en Italie. Et donc, il en a profité pour partir aux États-Unis, voire participer au projet Manhattan. Et donc, tous ses élèves vont avoir des destins assez singuliers.
Et c'est ça qui est très captivant dans ce roman graphique, c'est que. On part donc d'un physicien qu'on connaît pas forcément quand on fait pas partie du milieu, et en fait on le voit interagir peu à peu dans son époque. Donc l'époque, c'est les années 20 et 30 et la montée du fascisme en Italie, mais aussi en France, mais aussi dans toute l'Europe, et avec aussi l'engagement très tardif des États-Unis avec tous les intérêts. Et on le voit effectivement rencontrer différentes figures de la physique, y compris des noms qu'on connaît déjà un petit peu plus dans
Einstein ou d'autres,
par exemple, certains Oppenheimer peut-être
aussi.
Et tout un tas de personnes, et toutes ces personnes ont un vécu, sont là un petit peu par hasard, certains ont des convictions, d'autres non. Et elles interagissent en fonction des intérêts de leur pays, leurs intérêts personnels, leurs convictions, et parfois un petit peu leurs contradictions aussi. C'est tout un périple en fait de rencontres, d'interactions de personnes qui à la base une science, une envie de rechercher, et qui se retrouve confrontée malgré elle à un environnement politique.
Fermi disait que un physicien, mis à part être bon en physique, était un citoyen comme les autres, avec ses erreurs et ses qualités, quoi.
Oui, c'est qu'on le voit dire bon, essayer de ne pas trop se préoccuper de politique, alors qu'au final il va être confronté.
Obligés, ouais.
Et on parle bien entendu du projet Manhattan où ils vont tous finir par se rejoindre, et des conséquences qu'on connaît, voilà. Vous, en tant que professeur, c'est quelque chose que vous avez, j'imagine, forcément étudié avec passion, mais aussi cette envie de le transmettre, comment ça s'est passé?
Oui, ça fait partie du truc. Effectivement, la bande dessinée, c'est un bon vecteur, c'est un bon médium pour passer de la science. Ça ne sait pas encore trop, mais ça commence à venir. Et l'éditeur où on a publié Moi et Lorenzo, c'est chez Duno, qui est une des principales maisons d'édition d'ouvrages scientifiques, commence à peine à faire de la bande dessinée. Et on a réussi à placer notre album là.
Ouais, ça fait 4-5 ans.
4-5 ans, pas plus. Ouais.
Et c'était peut-être au final, la bonne maison d'édition pour pouvoir justement rentrer un peu dans le détail. Alors après, pour un BOC, en tout cas, on a l'impression que ça rentre dans le détail. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées, y compris d'ailleurs un petit glossaire à la fin qui explique les bases de la physique nucléaire.
Oui, j'ai fait un niveau première.
Oui, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Tout le monde ne l'a pas.
Voilà.
Beaucoup de
mais bon,
techniques.
Si on s'y connaît pas trop en nucléaire, ça passe quand même. Il y a quelques pages où on passe, et on est quand même pris dans l'histoire, le destin des personnages, sans problème.
Oui, c'est vrai que quand on connaît pas, on fait confiance à ce qu'on lit, à ce qu'on entend, en se disant bon, ils savent de quoi ils parlent, et néanmoins ça n'empêche pas effectivement de suivre leur histoire. Votre rencontre à tous les deux, le fait que vous ayez travaillé tous les deux sur ce projet, comment ça s'est passé?
On s'y connaissait déjà. Voilà.
Oui.
On allait boire de temps en temps un verre. Voilà. Jean-François est enseignante, ma femme est enseignante, donc on s'y connaissait. Et en parlant un peu de cinéma, de bande dessinée, on s'est dit il faudrait faire quelque chose ensemble un jour. Et en effet, ça s'est fait. Moi, la physique m'a toujours intéressé d'une façon. Je n'ai pas une préparation spécifique, mais je me suis toujours un peu intéressé, un amateur. Mais Jean-François est prof, donc il avait des connaissances. Ça m'intéressait de profiter de cette osmose de cette rencontre pour raconter quelque chose qui puisse être lié aussi à mon pays. Ça, c'est un projet qui naît aussi pour le fait que je suis italien et qui, en effet, dans une période très compliquée comme celui du fascisme en Italie, bah, il y a eu ce passage très intéressant du point de vue scientifique. Ce groupe de personnes qui ont développé quelque chose dans un contexte extrêmement difficile, parce qu'il n'avait pas beaucoup de reconnaissance par rapport à ce qu'était la politique de l'époque, qui voyait la physique comme quelque chose de plus concret, plus lié à une production d'un produit, de réaliser quelque chose de vraiment qui puisse être utilisé pratiquement.
Oui.
À l'époque, le fascisme, par exemple, célébrait Guglielmo Marconi, l'inventeur du téléphone,
Galilée,
voilà.
Donc, exactement. C'était la science appliquée, c'était pas la science théorique comme vous voulez faire.
Exactement, Fermi. Exactement. Une science, la physique appliquée à qui portait à des inventions utiles.
Oui, c'est voilà. Que l'esthétique fasciste, en fait, elle se nourrit vraiment de tous ces récits de précurseurs et les récupère évidemment, ce qui au grand dam effectivement toutes les personnes qui
et surtout cherchent. Quelque chose qui est strictement lié à l'utilisation. La physique sert à inventer quelque chose qui sert à quelque chose.
Oui, c'est qu'on n'aime pas les chercheurs, mais on aime bien leur recherche,
voilà.
En fait.
Alors, ce groupe de jeunes, de très jeunes à l'époque, qui étudiaient comme était fait un atome, comme était constituée la matière, c'était quelque chose de trop abstrait pour rentrer dans la rhétorique fasciste. Donc, bien sûr, ils étaient un peu en difficulté comme chercheurs.
On leur a reproché peu après, enfin, après, à la fin de la guerre, un petit peu d'avoir créé cette bombe. Effectivement, de nos jours, c'est assez actuel. Il y a une menace qui pèse sur nous parce qu'il y a énormément de bombes nucléaires. Ces bombes sont capables de faire disparaître la Terre, je ne sais pas combien de fois, mais à l'époque, il faut les imaginer. En tout cas, au projet Manhattan, quand ils allaient à Los Alamos, ils avaient tous de la famille, la plupart étaient européens. Ils avaient tous de la famille en Europe qui était en train de se faire massacrer et pour eux il fallait aller le plus vite possible. On savait que les Allemands cherchaient, mais on ne savait pas où étaient les Allemands. Et on peut imaginer, donc c'est pour ça que l'État américain, les Alliés ont mis beaucoup d'argent dedans. Bon, on peut imaginer si les Allemands avaient trouvé avant les Alliés la bombe nucléaire, on serait nos jours. Quoi.
Oui, c'est ce qui a permis la dissuasion en fait. C'est le fait que tout le monde l'ait et qu'au final, ça ne servait à rien d'appuyer sur le bouton parce qu'au final, c'est entraîné une réaction en chaîne, cette fameuse réaction en chaîne.
Et c'est tellement d'actualité.
Terriblement d'actualité.
Il a encore fallu effectivement les convaincre à l'époque que qu'il y avait une urgence, parce qu'apparemment on le voit dans le bouquin quand même, c'est que c'est pas. Ils étaient pas. Enfin, le gouvernement américain a un peu freiné au départ.
Oui, ils s'engageaient, ils ont je sais pas combien il y a eu de morts américains sur le sol européen, c'était aussi un coup pour eux. Voilà.
Les plus fous ont été les Allemands, bien évidemment, c'est évident, parce qu'on laissait partir toute cette quantité de scientifiques pour des questions folles, questions raciales. Ils ont perdu énormément d'intelligence.
Hitler a perdu la guerre en 33 quand il a mis dehors tous les physiciens juifs. Il les aurait gardés, il aurait eu la bombe et ça tourne autrement. Quoi.
Einstein est un premier.
Et justement, parce qu'au final, ça pose le doigt sur quelque chose, c'est que quand on s'intéresse à un domaine aussi pointu, certains doutent, certains ont des convictions mais préfèrent les mettre au placard, d'autres les affichent clairement, et ça peut leur jouer des tours de dire ou de ne pas dire aussi.
Chacun va réagir par rapport à la situation différemment, et c'est ce qui fait l'intérêt de l'album. C'est-à-dire qu'ils partent tous du même endroit et ils vont tous avoir un comportement différent. Il y en a carrément qui vont arrêter la physique, dégoûtés, qui vont arrêter la physique nucléaire après Hiroshima pour devenir paléontologue. Il y en a un communiste qui va partir de l'autre côté en URSS. On va plus savoir qui c'est, où il est pendant 10 ans, et on va le soupçonner d'être à l'origine de la bombe nucléaire russe.
Oui.
Chacun va réagir différemment par rapport à la situation.
Si on parlait maintenant de la partie graphique de ce roman graphique, parce qu'effectivement, alors Lorenzo, à chaque fois qu'on te reçoit pour un nouvel ouvrage, j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne qui dessine. Tu as plusieurs talents et cordes à ton arc, et cette fois-ci, c'est un style très particulier. Après, j'ai pas l'œil d'un dessinateur, mais j'ai noté qu'il y avait des personnages très colorés, sans pour autant de contours très marqués.
Exactement.
Et qu'à l'arrière, on avait vraiment du grain et du style, y compris avec des images réelles qui sont stylisées, comme s'il y a passé dans une photocopieuse, en fait.
Si, c'est un peu ça. C'était une approche différente d'un côté, parce qu'il y avait un côté historique récent. Ça m'est arrivé de dessiner des sujets historiques. Normalement, c'était des sujets du Moyen-Âge, de l'Antiquité. Là, on a quelque chose de très récent. Je me suis dit que récupérer des images réelles avec un petit traitement, c'est des photos redessinées, retouchées, remontées. C'est du collage à la base. C'est du collage que j'ai transformé avec des trames. Voilà. C'est du dessin qui semble une photo, et parfois une photo qui semble du dessin. C'est un mélange de techniques comme basse. Donc j'ai récupéré des images réelles et j'ai ajouté des personnages un peu en collage. Voilà, là c'est complètement dessiné pour donner un côté réaliste et en même temps essayer de rester sur quelque chose de graphique extrêmement simple, vu que le sujet quand même risque d'être complexe. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'aspects politiques, scientifiques, donc c'est un bouquin dense, très dense. Donc je sentais la nécessité de mettre un dessin qui puisse participer à cette description, mais en même temps être plutôt lisible. Voilà.
Mais l'identité graphique, en tout cas, on retrouve vraiment effectivement certains travaux de un petit peu de collage, un peu style fanzine, mais vraiment, mais tout est unifié. Dans les images réelles que tu as prises, au final, il y a toujours un grain qui revient à chaque fois qui marque une identité.
Oui, bien sûr.
La question de comment le récit et le graphisme se sont interconnectés, vous avez communiqué l'un avec l'autre pendant combien de temps pour mettre au point
Constamment, bien sûr.
Il y a une étape intermédiaire entre lui et moi qui est le storyboard.
Oui, bien sûr.
Donc on a travaillé ensemble, il proposait quelque chose, je voyais des choses qui n'allaient pas, on changeait, la plupart du temps ça allait. Voilà quoi.
Mais Jean-François fait un storyboard incroyable. Moi j'insiste toutes les fois, là c'est une déclaration d'officier, j'insiste toutes les fois qu'il puisse réaliser une bande dessinée au dessin, parce qu'il a un très bon dessin.
Donc
je partais déjà d'une visualisation plutôt aboutie, pour réduire, ajouter, modifier. Après, voilà, on a un peu travaillé, on a un peu réduit. Jean-François avait écrit un scénario plus long au départ. On a dû réduire. Donc, tout ça jouait même graphiquement. C'est complexe faire une bande dessinée. C'est un travail.
En tout cas, quand on le lit, ça se ressent. Ça vous a pris combien de temps?
Alors,
moi, je suis près de 4-5 ans.
Voilà, exactement.
J'ai une bibliothèque, j'ai une étagère entière avec des livres en italien, en anglais, etc. Donc, j'ai beaucoup de mon côté.
Beaucoup de travail de recherche. Pour moi, c'était plus rapide. Parce que. Même s'ils sont 140 pages en total, c'était plus simple. En plus, avec cette technique, ça m'a permis d'aller un peu plus rapidement. Donc, c'est quand même, ça reste des travaux qui emportent pour des mois.
Parce que il y a plusieurs lieux différents, effectivement, différentes architectures.
Il fallait qu'il y ait des scènes où on ait le décor du fond en photo.
Oui.
Il y a des fois des scènes qu'on a supprimées ou changées parce qu'on n'avait pas le décor au fond.
Ah oui.
Le fait de prendre des références aussi précises photographiquement, mais ça ça nous mettait dans la nécessité d'avoir des photos. Et, pas du tout, on a pas du tout des photos. Donc parfois, on a un peu inventé le laboratoire à l'intérieur. On s'imaginait.
Voilà. Ou supprimer la scène parce qu'on n'avait pas l'arrière-plan et qu'on n'allait pas raconter n'importe quoi sur un. Voilà quoi.
Bien sûr.
Mais donc, oui, j'imagine effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup de recherches, ne serait-ce que pour déjà le côté récit, le fait de raconter ça, de le mettre à portée de la personne qui va le lire.
Et puis aussi un truc marrant.
Oui.
Le fait que ça a été aussi long fait qu'il y a certaines œuvres qui sont arrivées, je pense à La Bombe chez Glénac, un gros succès. Oppenheimer, le film. À chaque fois que le film Oppenheimer est sorti, je suis allé voir le premier jour à la première séance pour voir s'il y avait des choses communes par rapport à ma BD. Donc les choses communes, il a fallu que je les supprime de ma BD parce que pour pas que ça fasse redite.
D'accord, je vois le souci. C'était nécessaire vraiment de pas.
Bah c'est ce qu'on voulait faire quelque chose de vraiment original. Et heureusement, Oppenheimer, Fermi intervient pas beaucoup. Heureusement pour nous.
C'est vrai. Mais par contre, après c'est vrai que bon, pour avoir vu le film il y a 2-3 ans et y avoir lu l'ouvrage aujourd'hui, j'ai fait quand même une petite parallèle entre Enrico Fermi et Robert Oppenheimer dans le sens où le personnage est. J'ai l'impression que c'est un peu l'archétype du personnage qui est posé là. Qui essaie de faire son mieux, il a sa discipline et tout ce qui est un peu autour, bon, ça le dépasse un peu quoi.
Bah disons que Oppenheimer organisait et Fermi s'occupait de tout ce qui était scientifique. Si Fermi n'avait pas été italien, à l'époque l'Italie venait de déclarer la guerre aux États-Unis, s'il n'avait pas pris sa carte au parti fasciste, à un moment donné il a fait cette bêtise là.
Oui.
Je pense qu'il avait. Il ne serait pas été Oppenheimer, ça aurait été Fermi qui aurait géré l'ensemble. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Effectivement.
Ouais. Fermi restait un ennemi en ce moment-là. C'est du pays, quelqu'un qui vient du pays ennemi.
Oui, donc oui.
Donc il faut avoir confiance jusqu'à un certain point.
Je vois. Et juste après donc la vulgarisation de physique nucléaire, après il y a toute une chronologie qu'on peut retrouver à la fin du livre. Pareil, si on veut vraiment croiser, parce que bon, le récit, on va dire, il est raconté sur différentes périodes qui s'entrecroisent aussi pour comprendre un petit peu les connexions entre les personnages. Mais on peut vraiment voilà, tout revoir dans l'ordre chronologique et comprendre les tenants et aboutissants. C'est un livre que vous allez. Enfin, qui est sorti donc en novembre.
Oui,
c'est ça. Exactement. Que vous êtes en train de défendre un petit peu et de dédicacer aujourd'hui.
Voilà.
Et qui est prévu aussi. Vous avez prévu des rencontres dans un avenir proche?
Ben, on est demain, on est. Dis-moi, je m'appelle plus.
Cosmopolite.
Exactement.
16 à 19.
16 à 19.
Et exactement. Puis le matin, de 10 à midi, je crois qu'on est au lieu utile.
De 11 à 13. À 13.
11 à 13.
11h, 13h. On est au lieu utile et 16h, 19h au Cosmopolite.
Et ça. Cosmo à nouveau dimanche, mais je ne sais plus quand. On aurait dû réviser.
Les horaires sont consultables sur la librairie Cosmopolite.
Voilà. C'est toujours un marathon, messieurs.
C'est toujours un marathon, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais cette année, franchement, a été extrêmement vivante, extrêmement active. Cette annulation du festival a fait qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont mises en place pour récupérer un peu. Et en effet, moi, je trouve une édition extrêmement vivante. On croise les doigts pour le nombre de personnes qui vont venir.
Nos éditeurs sont pour l'instant assez contents de la fréquentation. Les ventes sont plutôt bonnes. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. La météo nous préserve, alors qu'il était annoncé de la pluie.
Exact, jusqu'à dimanche.
Pour l'instant, ça va.
Ça va rester léger. Hein, quelques gouttes juste pour nous rafraîchir un peu. Mais bon, ça va rester très léger. Mais effectivement, et c'est un public différent qui vient cette année. Avec certainement des locaux qui ne venaient pas parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, parce que c'était une très grosse. Je confirme. On retrouve un petit peu effectivement cet esprit beaucoup plus intime, beaucoup plus local, et cette communication également entre les auteurs et le public. Et effectivement, on n'a pas ces grosses machines, hein, ces grosses bulles. Voilà.
Tout à fait. Mais c'est un peu la vérité, ce qui se passe.
Bon, on espère quand même qu'on va revenir l'année prochaine à Duin aussi ambitieux, avec aussi grosses expos qu'avant. Mais... Ouais. le off ici et cette année c'était bien, c'était très bien aussi.
Vous avez le temps justement d'aller sillonner entre deux dédicaces, d'aller voir les expos, d'aller voir un petit peu ce qui se passe à côté, pour de discuter avec les copains?
Moi j'ai à ce moment j'ai pas eu un seconde de temps libre jusqu'à maintenant. J'espère un peu plus dans le week-end. Mm-hmm. Voilà. Je sais qu'en bas il y a pas mal de choses à la cité,
oui.
Le côté Magellis, il y a pas mal d'indépendants, il y a le vaisseau Möbius, il y a beaucoup d'expos à voir aussi. Donc c'est une édition quand même vivante.
Et vous, Jean-François, qui n'êtes pas forcément un habitué du festival, si j'ai bien compris, vous l'appréhendez de quelle manière ce rendez-vous?
Ça fait quand même quelques années que je suis sur Angoulême, une dizaine d'années. Bah, moi, je découvre, hein, c'est vrai qu'avant. Donc, je vois la différence entre les années précédentes et maintenant. Et c'est peut-être. Cette année, par exemple, je pense que les gens peuvent plus parler avec les auteurs, alors qu'avant. Je sais que j'ai vu par exemple Bouzard qui habituellement au festival, un auteur qui s'appelle Bouzard qui habituellement au festival, c'est un tirage au sort et vous, là il est peut-être, il est au milieu d'un champ de Mars dans une librairie temporaire et on peut discuter avec lui, il n'y a pas grand monde, donc on peut voir des choses qu'on verrait pas.
Quel plaisir, voilà. Retrouver.
Ouais. C'est véritablement un peu ce que on m'a raconté de les premières fois, les premiers festivals où des auteurs se baladaient dans la rue et on pouvait les approcher, discuter. Voilà.
Donc, il faut en profiter parce que l'année prochaine, ça va redevenir un peu plus difficile.
Voilà. Seb, vous avez abordé les projets de Lorenzo?
On n'a pas encore abordé les projets en cours et les projets à venir.
Alors, les projets. Merci.
Il y a toujours beaucoup de travail et beaucoup de projets, Lorenzo.
J'essaye. Mais c'est un peu comme ça. Il faut toujours un peu. Vu que ça prend du temps réaliser une bande dessinée, il faut avoir un tout petit peu d'avance et lancer quelque chose pendant qu'on est en train de travailler. Mais c'est pas toujours facile. Donc, moi, à ce moment, je suis un peu en stand-by. J'attends. J'ai un projet personnel que je tienne à faire, mais voilà, ça me demande beaucoup de travail, c'est beaucoup de pages, donc voilà, je commence ça. Et après, j'ai lancé avec un collègue un autre projet, mais on est en train d'attendre une réponse d'un éditeur. Donc, j'attends avant de dire qu'on a signé, que c'est fait. On attend de voir. Dans cet moment.
Et à côté du travail de création, il y a toujours ces activités dédiées à l'enseignement, à ces ateliers bande dessinée?
Exactement, ouais. Et il y a toujours. Cette année, on m'a proposé d'animer un cours de bande dessinée dans une école primaire à la Grand Fond.
Oui.
À l'école Émile Leroux. Donc j'ai deux classes, une classe de CM1 et CM2. Et donc ça me plaît beaucoup, tout ça. Ça me plaît beaucoup. Je suis cette deux classes pendant toute l'année. Donc c'est la première fois que c'est un peu une expérience de mettre cette classe bande dessinée à l'école primaire. Et c'est un peu une expérience, mais qui, je vois se passer très bien.
Donc, est-ce que tu as repéré quelques coups de crayon peut-être prometteurs?
Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. C'est des jeunes enfants de 9, 10 ans qui, bien, à cet âge-là, on a un talent fou. Tout le monde a un talent incroyable. En grandissant,
on n'est pas inhibé à cet âge-là.
Exactement. Il y a liberté totale, une imagination totale. Non, bien sûr. Tout est possible à cet âge.
Bien, ben voilà un autre projet qui va te suivre tout au long de cette année scolaire pour compléter tes activités déjà bien remplies.
Exactement.
Seb, tu veux aborder autre chose?
Je voulais rappeler déjà le titre de l'ouvrage, donc c'est Les garçons de la rue, Panisperna, des physiciens dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, donc paru chez Duno Graphique.
Exactement.
Et on va vous retrouver, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec ces nombreuses séances de dédicaces encore demain et dimanche, puisque le marathon bande dessinée continue pour vous.
Bien sûr. Bien.
Parfait. Bah, merci. Tu veux qu'on conclue comme tu veux, tu me dis.
Bah, moi, c'est bon pour moi.
Ok, bah, ça marche. Bah, merci beaucoup, Lorenzo.
Merci,
merci Jean-François,
merci
de nous avoir accordé de belles minutes et d'avoir exposé ce travail. Et puis, j'adore. Tu disais, Seb, que tu appréhendais toujours Lorenzo avec un dessin différent pour chaque ouvrage. Mais je suis toujours épaté par les thématiques, par les univers qu'aborde Lorenzo à chaque fois qu'il vient nous présenter un projet. Voilà, on est toujours surpris. On l'attend pas. Il est jamais là où on l'attend.
Mais c'est gentil, Stéphane.
En tout cas, merci de nous l'avoir envoyé parce que c'était un vrai plaisir à lire. En tout cas.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Bien. Profitez bien de ce grand off, évidemment.
Merci.
On continue, nous, ciao, on est en direct. Merci, Lorenzo. Ciao.
Merci. Ciao.